pour se détacher, pour bien se détacher, pour aller vers l'autonomie, mais il faut s'attacher. Il faut que l'attachement se fasse bien. Ce n'est pas figé. On peut se sortir de situations qui sont problématiques, où on a l'impression que ça ne va jamais se régler, où on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre. Il y a une porte de sortie. Et bien évidemment, toujours avec l'aide d'Arma.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Nous vivons une époque difficile. On veut tous être aimés, mais beaucoup d'entre nous sont profondément abîmés. Elle est toxique, il est narcissique. Si l'utilisation de ces mots a souvent été de trop, force est de constater que bien des maisons sont atteintes de nombreux maux. Alors, d'où ça vient ? Pourquoi a-t-on tant de mal à instaurer la paix dans de nombreux foyers ? Évidemment, les réponses sont multiples. Assurément, seul Allah détient la vérité. Mais avec Sarah, ce que l'on vous propose humblement, c'est d'aborder la cause de bien de ces tourments. Il s'agit des liens d'attachement. Quels sont-ils ? Comment des attaches qui se cachent dans la relation parent-enfant entachent parfois les relations lorsque l'on devient grand ? Peut-on soigner un lien d'attachement qui a mal commencé ? Pourquoi a-t-on tout à gagner à nourrir un lien d'attachement sécurisé ? Thérapeute et spécialiste de la méthode Gestalt, Sarah Kelafi répond à toutes ces questions avec douceur et pédagogie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car dans les dernières minutes, elle nous explique en quoi la présence des deux parents est déterminante dans le bon développement de l'enfant. Merci à Sarah pour cet épisode profond et riche en réflexion, et bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sarah, comment vas-tu ?
Salam alaikum Madina, ça va très bien et toi ?
Je vais bien, je vais très bien. Sarah, aujourd'hui, toi et moi, on va parler notamment des liens d'attachement, mais pas que. Et avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, s'il te plaît, que tu puisses te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, en nous indiquant donc ton prénom, ta profession et depuis combien de temps t'exerces, s'il te plaît.
Alors en fait, j'ai un parcours assez atypique quand même. J'ai un parcours assez atypique. Je suis diplômée de l'école S-Mode. J'ai eu mon diplôme de styliste modéliste. Donc, j'ai bossé déjà depuis plusieurs années dans la mode. Ensuite, j'ai travaillé en tant qu'office manager dans des sociétés, dans différentes sociétés. Et il faut savoir que je suis maman de 3 filles. Et qui sont 2 d'entre elles qui sont atteintes de dyslexie, avec d'autres troubles. Ce qui m'a amenée à me renseigner et à me former à des pédagogies alternatives pour pouvoir les accompagner dans leur scolarité. Et en fait, dans l'école actuelle, c'est compliqué ces accompagnements-là. Tous les profs ne sont pas formés. Et moi, à la maison, c'était compliqué aussi de les accompagner dans leurs devoirs et comment je pouvais faciliter leurs apprentissages ou leur donner plein de... Enfin voilà, les aider dans ça. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur des méthodes pour les dyslexiques, comment atténuer ou comment accompagner les enfants TDAH. Voilà. Donc, je me suis formée à des méthodes pour les dyslexiques. Et ensuite, ça m'a amené à me former également à la gestion mentale. La gestion mentale s'appuie sur les travaux d'Antoine de la Garandrie, qui est un philosophe, et qui a étudié le processus mental des enfants en réussite. Comment les enfants qui réussissent dans des grandes écoles, prépa, HEC, fonctionnent dans leur tête. Et il en a dégagé des gestes mentaux. Et en fait, c'est une pédagogie vraiment qui m'a plu parce qu'elle respecte notre
individualité un peu.
Exactement, notre façon de faire déjà, puisqu'on réussit et les enfants réussissent déjà dans plein de choses de la vie. et on part de cette réussite-là pour mettre en place, enfin pour les accompagner.
Ah, c'est hyper intéressant, d'accord.
Et en parallèle de la gestion mentale, je me suis formée à la Gestalt, à la thérapie Gestalt. Et aujourd'hui, j'accompagne dans mon cabinet à Chatou ou en visio des femmes, des adolescentes dans leurs problématiques du quotidien.
Ok, d'accord, c'est très intéressant. Et alors, du coup, maintenant qu'on sait un peu mieux donc, qui tu es, j'aimerais qu'on s'intéresse mais justement aux liens d'attachement. Moi, ça m'a paru fondamental de commencer un peu finalement ce travail sur soi en commençant par les liens d'attachement, parce qu'en fait, dans la saison 1, pour les personnes qui étaient là dans la saison 1, il y a différents psychologues qui sont intervenus, dont Farida Kassed, et en fait, il y avait eu un passage sur l'importance de se connaître. Et Farida expliquait justement pourquoi c'était important de se connaître et par quoi ça devait passer dans un premier temps. Donc en fait, le premier niveau, vraiment le niveau zéro de toute connaissance de soi, à savoir se poser des questions fondamentales telles que qui je suis, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que j'aime pas, mes qualités, mes défauts. Et aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir aller encore plus loin dans la recherche de soi, puisqu'on va aller vraiment dans la couche encore inférieure, qui pour moi sont les liens d'attachement. Et avant de pouvoir rentrer dans le détail sur les types de liens d'attachement, etc., est-ce que tu peux nous en donner une définition claire et nous expliquer un petit peu, pareil, d'où ça vient ces liens d'attachement ? À chaque fois, je suis peut-être un peu redondante, mais je vais le repréciser, on est sur des concepts que les êtres humains ont créés. Donc, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, mais ça me tient quand même à cœur de le dire, à titre personnel, dès lors où ça a été créé par l'humain et que moi, en tout cas, j'ai pas de lien direct avec le Coran et la Sunna, je le prends toujours avec beaucoup de distance. Ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'en tant que croyant, on se dise, c'est super intéressant, mais peut-être qu'il n'y a pas une vérité immuable. Je t'écoute, Sarah.
Alors, d'où ça part, ces liens d'attachement ? Déjà, on va se mettre dans le contexte ça a été dans le contexte de l'après-guerre en Angleterre. Il y a des bébés, donc on prenait en charge les bébés, on les nourrissait, on les changeait, mais il y en a beaucoup qui se sont mal développés ou qui sont morts. Et ça suffisait pas juste, le soin ne suffisait pas. Il manquait une nourriture essentielle, une nourriture à l'âme. Et du coup, bah, c'est la tendresse, la présence physique, les câlins. Anna Freud, justement, elle a étudié cette séparation mère-enfant.
Ah pardon, je vais te demander qui est Anna Freud. C'est quoi le rapport avec Sigmund ?
Donc, c'est la fille de Freud.
Je te remercie.
Et en fait, elle a étudié la séparation des enfants avec leur mère ou une figure maternelle. Et elle s'est aperçue qu'il y avait des conséquences dans leur développement. Ensuite, John Bowlby, psychologue psychanalyste britannique dans les années 50, il a étudié la relation mère-enfant. Et il en a fait une théorie. Il a été le premier à montrer que le bébé n'a pas que des besoins physiologiques, mais également des besoins affectifs. Notamment ce besoin de sécurité émotionnelle qu'il nomme l'attachement. Et c'est un besoin vital. Et ensuite, suite à ses travaux, à John Bowlby, vont apparaître les premiers travaux de Mary Ainsworth, qui est psychologue du développement, et elle a fait une expérience qui s'appelle la situation étrange. Donc ça, vous pourrez aller sur YouTube et taper à Mary Ainsworth la situation étrange. Qu'est-ce que c'est cette expérience ? Je vais vous dire un petit peu ce que c'est. L'objectif, c'était de mesurer la qualité de l'attachement chez un enfant entre 9 et 18 mois. Et sa maman. L'expérience comporte 8 étapes différentes qui durent 21 minutes. Et en fait, ça décrit, dans cette expérience, une maman et son enfant qui sont placés dans une pièce. Enfin, ça décrit, ils l'ont fait en vidéo. Une maman et son enfant dans une pièce inconnue avec des jouets. Et on va confronter l'enfant à divers scénarios de séparation et de retrouvailles avec sa maman. Et on va faire, même dans ces scénarios, apparaître une personne inconnue. Et on va observer l'enfant sous différents angles, ses réactions. Et ce qui est mis en lumière dans cet attachement, c'est qu'en fonction du vécu et de l'expérience de l'enfant, il ressort trois types d'attachements qui vont avoir un impact même à l'âge adulte. Ça va venir conditionner les interactions avec les autres tout au long de la vie.
Donc avant qu'on aille sur le détail des liens d'attachement, de ce que je comprends, c'est que le lien d'attachement, c'est un lien qui se fait entre l'enfant et ses parents.
L'enfant et sa mère, une figure maternelle, effectivement. Au début, c'est la mère.
Merci de le préciser.
Évidemment, il y a des enfants qui n'ont pas de mère à la naissance. Et il y a le père. Et c'est OK. Il y a une tante. Il va y avoir, en fait, une figure d'attachement. C'est pas obligé que ce soit la mère, mais imaginons un enfant n'a pas une mère à la naissance, ou sa mère l'a abandonnée, ou elle est morte en couche. Il va y avoir une figure maternelle qui peut être sa tante, sa grand-mère, et son père aussi peut jouer cette figure-là.
Ah d'accord, parce que justement moi je me disais si la maman n'est pas là, alors de fait le lien d'attachement déjà est altéré. C'est-à-dire que déjà ça donne une couleur au futur lien d'attachement. C'est-à-dire que je me disais ça parce qu'en fait une fois je regardais un documentaire, je pense sur les enfants qui sont nés sous X, et en fait le personnel hospitalier qui travaillait en pouponnière disait souvent c'est des enfants qui pleurent pas. Ils arrivent au monde, ils pleurent pas. Et même dans leurs premiers jours, tu ne les entends pas. Et je me dis, si ça déjà, c'est pas un signe que ton lien d'attachement, il est un peu altéré, parce que là, bah, concrètement, ton lien d'attachement, ça va pas être la puéricule, la sage-femme,
c'est ce qu'on appelle un facteur de risque, effectivement.
On est d'accord,
Ça part, on part avec quelque chose, mais comme on vient de dire, c'est pas parce qu'on part avec cette situation-là qu'il ne va pas y avoir de figure maternelle, que l'enfant ne va pas pouvoir se développer.
D'accord, ok. Voilà. Ok. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents liens d'attachement ? Tu as parlé de trois, mais tu vois, typiquement, quand j'ai préparé notre conversation, j'ai vu que parfois on parlait de quatre. Donc moi, c'est vraiment le genre de truc où je me dis, déjà, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur combien de liens d'attachement, moi, ça peut relever mon niveau de scepticisme, tu vois.
Je comprends tout à fait. Là, ouais. Elle en a sorti, en fait, trois. Okay. L'attachement sécure, l'attachement anxieux évitant et l'attachement ambivalent ou résistant. Mais en tout cas, dans la Gestalt, il y en a sept. Pourquoi il y en a sept ? Parce que ça permet d'apporter de la nuance à chaque situation, justement.
Ok. Donc, du coup, tu veux nous expliquer les trois ou les sept, finalement ?
Je vais vous expliquer les sept.
Ok. On t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire... Ah, oui, bien sûr. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, en même temps que tu expliqueras les sept, qu'est-ce que ça contient et un peu le... qu'est-ce que ça donne comme information sur l'adulte qu'il est devenu, pour permettre, je te demande ça pour que les gens qui nous écoutent et moi-même du coup on puisse un peu se dire, ah oui d'accord, donc je suis plutôt sur ce type de lien d'attachement. Encore une fois, je pense que une science exacte, mais ça peut aider, ça peut donner une couleur à qui on est.
Bien sûr, c'est pas là en 30 secondes avec ce que je vais vous apporter que vous pouvez en fait vous dire, j'ai ce type d'attachement-là.
Okay.
C'est vraiment en travaillant là avec dans la thérapie qu'on va pouvoir comprendre ce qui s'est joué pour vous dans la relation avec votre mère, okay, ou votre père, ou votre entourage, vraiment. Bon, on va commencer et puis tu me diras. Donc, le premier en fait, type d'attachement, c'est l'attachement sécure. C'est l'attachement où la personne elle a réglé toutes ses problématiques, elle sait exprimer ses émotions, elle sait les réguler, elle a une capacité à explorer le monde, elle se sent en sécurité, elle sent une sécurité intérieure, elle s'accepte comme elle est, elle accepte d'être dépendant sereinement, sans se dire. Enfin, elle s'engage en fait de manière juste, sans peur.
Avant d'aller sur le deuxième lien, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit c'est une personne qui a réglé ses problématiques. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas être sécure de base? On est obligé de passer par un autre type d'attachement avant d'aller vers le sécure? C'est ça ta théorie, toi?
Je pense que c'est très rare d'être sécure. Si on n'a pas
sans avoir travaillé, d'accord, ok. Okay.
Voilà. Okay. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Et il faut voir ça aussi comme un continuum. Il y a un curseur. Donc, le curseur, il bouge. Donc, il y a des personnes qui peuvent être sécures, mais voilà, après, je vais expliquer les différents, en fait, degrés. Et là, ça va vous amener de la nuance, en fait.
Ça marche.
Ensuite, on rencontre l'attachement anxieux. C'est un attachement qui a été mal métabolisé. Ça va créer un attachement insécure. Il y a un exemple. Ça va être une situation d'anxiété, en fait. Je vais prendre Fatima, par exemple, qui est mariée à Abdel. D'accord ? Abdel, il rentre tous les soirs à 20h. Si elle a un attachement sécure, Fatima ne va pas s'inquiéter. Elle va être capable de continuer à faire ce qu'elle a à faire dans la maison. Et si son attachement, il est insécure, elle va déjà sentir une anxiété. Elle va dire, tiens, c'est bizarre, hein. 20h, il n'est pas là. Et ça va déclencher en elle quelque chose. Donc déjà, ne pas... Et cet attachement-là anxieux, il se déclenche dans des situations d'anxiété. OK ? C'est pas tout... Voilà, ça commence là. On commence déjà à avoir un attachement qui n'est pas sécure.
OK, d'accord.
On va descendre. On rencontre l'attachement anxieux dépendant. Je continue à vous l'illustrer avec l'exemple. Il est 20h01. Abdel donne pas de news et n'est toujours pas rentré. Mais il est 20h01. Bah, Fatima, elle va pas attendre. Elle va l'appeler direct.
Okay.
Parce que déjà, il y a un manque. Allô, t'es où? Tu fais quoi? Tu me manques. Dépêche-toi, rentre vite.
Donc là, c'est l'anxiété, donc la peur de... Il va peut-être arriver quelque chose lié au fait que ben, ça fait une minute de trop. Parce que là, normalement, je devrais être en train de profiter de lui. Et c'est une minute où je suis sans lui. Il me manque, j'appelle. C'est ça? C'est ça.
Exactement.
Un peu ce... Ok, très bien.
C'est vraiment ça.
Okay.
Et quand on est... le couple. Mais quand on est célibataire, ben c'est un peu une mode... On est en mode survie, quoi. On a besoin de rencontrer quelqu'un pour pas être seul.
Mm.
Il nous faut quelqu'un. Donc, on va se mettre à la recherche de ce quelqu'un.
D'accord.
Parce que c'est compliqué de fonctionner tout seul. Et ces anxieux dépendants fonctionnent mieux à deux.
Entendu. Alors que si, alors juste, je reprends le premier anxieux, quand on est célibataire, c'est peut-être se questionner sur le quand est-ce que ça va venir, ça m'angoisse un peu qu'il ne vienne pas, mais il n'y a pas cette démarche de il faut absolument que je trouve quelqu'un. C'est ça,
exactement,
par exemple?
Exactement, exactement. Okay. On fonctionne, on fait sa vie, on va au travail, mais quand on pense, ou quand, voilà, peut-être qu'il s'est passé, c'est une situation un peu anxieuse, bah là, voilà, il se passe quelque chose.
Entendu.
On se sent seul, mais ça va, mais on passe à autre chose et puis on continue sa vie. Alors que là, on ne peut pas fonctionner tout seul. Il y a du manque. On ne le vit pas bien. Ensuite, on va rencontrer l'anxieux ambivalent. Donc, on va retrouver un petit peu de caractéristiques du dépendant, mais avec un peu plus de choses. Et c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup d'amour, mais ils ont l'impression que les autres répondent mal à leurs besoins. Que ce soit en amitié ou en amour, d'ailleurs. Les autres sont pas assez. C'est vraiment un vécu d'insatisfaction chronique. J'ai besoin
des exemples,
de toi.
Ouais, ouais.
Mais quand t'es là, ben c'est pas comme j'aimerais.
C'est pas comme je voudrais, quoi. Wow.
Et c'est difficile à prendre quand il est là aussi. Quand il y a l'amour qui est là, bah c'est le prendre le bon, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup de sentiments de frustration. Il faut que ce soit vraiment conforme aux attentes de l'ambivalent.
Et pour les célibataires qui nous écoutent, quand tu es dans cette optique-là, ça se joue sur de l'amitié, c'est ça? Où tu vas peut-être constamment rechercher des nouvelles amitiés, mais en fait, ces amitiés-là, elles te comblent jamais vraiment, peut-être, c'est ça?
Oui, c'est où c'est. J'ai vraiment envie d'être en couple, mais oh non, peut-être que non, non, non. Franchement, en fait, j'ai pas vraiment envie.
Ah, ou peut-être quand il y a un prétendant qui se présente, c'est un peu ce. Il est bien, mais ça c'est ma phrase préférée, ça.
Voilà.
Il est bien, mais c'est un peu
mais
ça,
là,
non?
Là, c'est pas ce que j'attendais vraiment. Il a pas ça, donc on va pas y aller.
On va chercher des excuses.
Ça va être compliqué, en fait.
Entendu.
Voilà. Là, c'est des types d'attachement qu'on appelle de type chaud. Là, plus on descend dans le froid.
D'accord. Donc là, on va commencer à descendre en
là,
température.
On va commencer à descendre en termes de température. Voilà.
Entendu.
Donc ensuite, on rencontre l'anxieux évitant. Donc là, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'amour et d'affection. C'est pas leur truc. Et on sent déjà que Ils sont souvent célibataires ou ils ont des relations à distance. Ils sont pas beaucoup en contact avec leurs émotions. Et c'est une façon... ils ont quand même besoin de relations, mais ils s'en protègent beaucoup. C'est une manière... c'est une protection. Parce que forcément, s'attacher à quelqu'un, bah, c'est le perdre, potentiellement.
Donc ça, c'est des personnes, comme tu l'as très bien dit, quand ils sont en couple... Ils se créent une distance. Et quand ils sont célibataires, peut-être que ce sont des célibataires qui disent souvent « j'ai pas besoin d'être en couple », non ?
Ben, ils ont pas vraiment, ils ressentent pas vraiment le besoin, là. Ça vient pas, ça monte pas.
Okay.
C'est compliqué, les relations. Ensuite, on a l'anxieux désorganisé. Donc, c'est un peu la suite de l'évitant, mais lui, il a plus envie ni besoin de relations. C'est souvent des personnes très intelligentes, qui sont souvent dans des métiers, l'informatique, un ancien métier qui était projectionniste dans les cinémas. Donc là, il travaille tout seul, lui. Eux, ils n'ont pas vraiment de vie sociale.
Carrément. Ah oui, là, on descend vraiment au niveau chaleur.
Ils sont vraiment isolés. C'est vraiment quelqu'un qui est isolé, qui n'est pas en contact avec les gens.
Parce qu'il ne le veut pas, c'est ça. Hein.
Oui, ce qu'il ne ressent pas. Il ne ressent pas, alors... Bien évidemment, il y a des anxieux désorganisés qui sont en couple. Hein. C'est compliqué, les relations pour eux. Et ensuite, on a l'anxieux schizoïde. Ça, c'est des personnes qui sont un peu craintives, qui ont peur. Si on s'avance, elles se reculent. Il y a eu vraiment un passé un peu d'abus psychique aussi.
D'accord. Là, pour le coup, ce que tu dis et ce qu'on comprend, c'est que pour cette dernière catégorie... souvent, il y a un début à ça, en fait. Naturellement, on est rarement dans cette catégorie-là, naturellement.
Oui, il y a vraiment une histoire, là, derrière, qui... On sent que l'ambiance, c'est compliqué.
D'accord. Déjà. Ces personnes-là peuvent être en couple ou pas, du coup ?
Ces personnes-là, elles peuvent être en couple, mais encore une fois, les relations, ça va être très compliqué.
D'accord. Alors, du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on est obligé de se faire accompagner pour soigner son lien d'attachement ? C'est la première chose. Est-ce que c'est une nécessité ? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui financièrement ne le peuvent pas. Il y a des personnes qui craignent aussi peut-être ce type d'accompagnement. Ça, c'est la première question à laquelle j'aimerais qu'on réponde. Et la deuxième question, c'est pourquoi c'est si important justement de réparer tout ça. Enfin, qu'est-ce que ça apporte, en fait, de repartir sur son enfance, etc. Ça sera dans un deuxième temps. Mais déjà, la première, c'est que est-ce qu'on est obligé de se faire accompagner pour soigner son lien d'attachement ?
Moi, je pense que oui, c'est important de se faire accompagner pour comprendre ce qui se passe dans notre relation de couple, dans notre relation avec nos enfants, dans notre relation aux autres. Parce que on peut lire plein de livres, on peut se poser des questions, on peut s'analyser, mais à un moment donné, on va être confronté, on ne va pas aller voir nos zones d'ombre seul, on ne va pas descendre en plus dans l'émotionnel tout seul. L'analyse, elle reste au niveau du mental. Et ce que permet la Gestalt, c'est que ce mental, ce mental-là, il descende dans le corps. Que l'émotionnel soit libéré. Et c'est ça qui est réparateur. C'est ça qui est important.
D'accord. Donc, en fait, quelque part, tu réponds aussi... Pardon. Tu réponds aussi à cette deuxième question qui était... finalement, c'est quoi l'intérêt de connaître ces liens d'attachement? Et de ce que tu en dis, c'est que c'est important parce que c'est nécessaire pour réparer les problématiques que l'on traverse quand on est adulte, c'est ça? Parce que je pose la question parce que moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont assez sceptiques, mais pas c'est pas méchant, c'est vraiment elles comprennent pas l'intérêt à chaque fois de repartir sur son enfance. Et en plus, elles sont parfois sceptiques des explications qu'on leur offre en disant « Ah bah si aujourd'hui, t'es quelqu'un d'anxieux, c'est parce que quand t'étais petite, ta mère, elle t'a privé de tel aliment et donc toi, du coup, ça t'a frustré. Donc aujourd'hui, eh ben, t'as des liens d'attachement qui sont déviants. » Il n'y croit pas, en fait, à ce type de logique. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là?
En fait, c'est pas revenir sur son passé pour revenir sur son passé. Mais c'est la personne, elle vient nous voir parce que dans son présent, il se passe quelque chose. Et elle aimerait comprendre ce qui se passe. Donc, en étant sceptique que le passé va... Ok, mais là, dans le moment présent, la personne, elle vit une difficulté ou une souffrance. Et le premier lien qui se crée dans la relation, c'est le lien avec la maman. Et ça se crée déjà dans le ventre, en fait, de la maman. Pourquoi, en fait, il y a déjà des études là, scientifiques qui nous prouvent qu'il y a un lien qui se passe pour l'enfant et sa mère, dans le ventre. Pourquoi cette grossesse, elle dure 9 mois? C'est pas pour rien aussi. La femme, elle se prépare à accueillir un enfant. Durant cette période, elle va être dans l'accueil, dans l'acceptation. Et au moment de la naissance, commence le processus de l'attachement avec ce bébé qui est là devant elle. Et quand il arrive au monde, ce bébé, ben, il va investir cette personne-là qu'il a, cette maman, qui va être pour lui qui va avoir des super pouvoirs. Elle va le comprendre, elle va le nourrir, elle va le rassurer, elle va le câliner. Donc là déjà commence le lien d'attachement avec cette première personne.
Et en fait, j'ai l'impression que ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que quelque part, parce que en fait, on a un podcast qui parle de l'amour et du mariage, c'est que c'est fondamental de au moins regarder son lien d'attachement parce que, de fait, celui-ci aura des conséquences sur la qualité de notre mariage, sur la qualité de notre vie de couple. Parce qu'en fait, si on est insécure, si on est anxieux, si on est anxieux, ambivalent, de fait, ça aura des conséquences sur notre relation avec l'autre. Parce qu'en fait, tu m'avais dit une fois, mais en fait, Badina, tout est relation, tout est attachement, en fait. Il y a le premier attachement, et si j'essaye de résumer,
c'est un continuum, en fait.
Oui, c'est
pour
ça, en fait.
Se détacher, pour bien se détacher, pour aller vers l'autonomie, mais il faut s'attacher. Il faut que l'attachement se fasse bien. Si l'attachement, c'est pas
est-ce
bien.
On peut s'arrêter sur cette phrase. Pour qu'il y ait de l'autonomie, il faut qu'il y ait de l'attachement.
Ben, le bébé, il arrive, il est dépendant de sa maman. Il est dépendant, il a besoin d'elle. S'il n'y a plus la maman, le bébé, il ne vit plus. Il s'arrête de vivre. Donc, il a besoin de cette dépendance. Et il a besoin de la vivre, cette dépendance, pour que la maman, petit à petit, l'accompagne vers cette autonomie. C'est la maman qui va l'accompagner vers l'autonomie.
Wow.
Et en fait, l'idée, c'est pas dans là le rôle de la maman, c'est pas de venir juger les mamans. Elles ont fait comme elles ont pu avec le contexte et l'environnement qu'elles ont eu. Il y a plusieurs dimensions à prendre en compte, la dimension sociale, politique, psychologique, physiologique, je dirais même religieuse. Donc, il n'y a pas de culpabilité, en fait, à avoir.
Oui, là, t'es pas en train de dire « faites attention les mamans, parce que si vous accompagnez pas bien vers l'autonomie, un, votre enfant, il sera pas autonome, et deux, ce sera de votre faute ». Non, c'est voilà, pas du tout ça que tu dis.
Exactement. L'idée, c'est pas là de mettre dans des cases les mamans, et parce que t'as pas fait ça, c'est pour ça que ton enfant, il est comme ça. Ou de dire, ben voilà, là, ça se passe pas bien du tout dans la relation avec mes enfants, ben c'est de ma faute. Non, il s'est passé ça, il se passe ça. Ben, l'idée, c'est de comprendre pourquoi ça se passe pas bien.
Oui.
C'est pour ça que c'est important quand même de faire un travail sur soi pour soigner nos relations.
Oui, bien sûr. Mais d'accord. Non, mais c'est tout à fait juste. Je voulais juste rajouter que, en fait, il n'y a pas de relation parfaite. De toute façon, rien n'est perfection dans ce bas monde. L'idée, justement, exactement, c'est de vivre dans ce monde imparfait pour essayer, Inch'Allah, de rejoindre ce monde parfait qui est notre première maison. Mais donc, du coup... peut-être qu'en tant que parent et particulièrement en tant que maman, il faut pas se dire pourquoi je suis pas parfaite, puisque de toute façon, de fait, nous ne le serons jamais.
mais la comprendre... perfection dans ce monde-là n'existe pas.
Oui, c'est ça.
La seule chose qu'on peut faire, c'est de viser l'excellence. Ça, c'est atteignable. Chacun a son niveau d'excellence, mais de faire le meilleur, ça, c'est possible.
Ouais, bien sûr. Si on revient sur les liens d'attachement, est-ce que tu peux nous donner les... Là tu as vraiment bien défini les différents types d'attachement. Ma question, c'est quoi les conséquences d'un lien d'attachement qui n'est pas sécure, dans le cadre de son mariage précisément?
Alors, dans le cadre, en fait...
Ou dans le cadre d'une recherche de mariage, pour qu'on ait vraiment les deux réalités, pour les personnes qui nous écoutent.
Mais en fait, déjà, c'est de projeter sur l'autre ce qui ne nous appartient pas. C'est de ramener des émotions dans la relation qui n'a pas lieu d'être, en fait. Ça va générer, en fait, un conflit et des frustrations. Imaginons, la personne, elle est très jalouse. Bah, elle va faire vivre un enfer à son partenaire. Cette jalousie, elle va prendre là le dessus là sur, enfin ça va venir un petit peu pourrir cette relation. Et si on travaille sur soi, ben on va aller chercher ce que veut dire cette jalousie. Qu'est-ce qui se passe pour que à l'intérieur de cette personne se déclenche cette émotion là.
Donc l'une des conséquences d'un attachement insécure, c'est l'altération de la qualité de la relation. C'est ça, en fait. Ou c'est le fait d'amener plutôt dans le couple des sentiments qui peuvent altérer la qualité de la relation,
voilà,
c'est ça ?
C'est plus ça. C'est plus ramener des choses, en fait, de notre émotionnel, de nos sensations, de nos peurs qui nous appartiennent et qui appartiennent pas à l'autre. Et ça va venir peut-être mettre des insécurités.
Est-ce qu'il y a d'autres conséquences d'un attachement insécure sur le couple ou dans sa recherche amoureuse ?
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? L'attachement insécure, on va pas pouvoir s'engager. Ça va être compliqué, l'engagement. Ça va être compliqué de se dire « je vais dépendre d'une personne ». Ça, c'est très compliqué aujourd'hui, on rencontre ça beaucoup.
Ah ouais ? Il y a une peur de l'attachement ? Il y a une peur de l'engagement ? Il y a une peur de l'attachement qui, du coup, conduit à une peur de l'engagement, une peur de se marier.
Une peur de se marier. Dès qu'on parle, peut-être qu'on prononce ce mot-là, ça active la personne. Et elle va se dire, non, là, toute la vie, tout le temps avec la même personne. Non, c'est pas possible.
Ok. Et à contrario, c'est quoi les bienfaits d'un attachement sécure dans un mariage ? Et est-ce que tu peux finalement nous rappeler, c'est très important, je pense, c'est quoi un attachement sécure pour qu'on l'ait bien en tête ? Parce que je pense que, enfin, ouais. On a un biais, je crois que c'est un biais de négativité où on a tendance à retenir beaucoup les attachements non sécures, mais de se rappeler c'est quoi un attachement sécure et c'est, ça sera peut-être plus simple derrière de revenir sur quels sont les bienfaits de ce type d'attachement.
Ben en fait, l'attachement sécure, c'est, comme je l'ai expliqué, hein, c'est vraiment, ça permet d'être seul, en fait, de manière créatrice. On fonctionne seul et on fait des choses. On peut aller dans le monde, on peut aller au contact des gens, on peut s'exprimer, on peut ressentir nos émotions, on peut les nommer, on peut réguler nos émotions, on peut savoir les réguler. Et c'est vraiment se sentir en sécurité, une sécurité intérieure.
Est-ce qu'on peut se dire que, pardon, est-ce qu'on peut dire qu'être sécure, c'est une forme de maturité émotionnelle? Je te dis ça parce que j'ai l'impression que, ben, on manque beaucoup dans notre époque de maturité émotionnelle, particulièrement quand on se marie. Et j'ai l'impression que c'est cette maturité émotionnelle qui permet justement de se sentir bien quand on est seul, de pouvoir réguler ses émotions, comme tu le dis, de se dire... parce que parfois, on peut se sentir un peu anxieux et de se dire « Non, là, je sais que là, c'est moi qui m'invente des choses dans la tête ou qui me crée un petit peu des problématiques. Mais en fait, je respire 2 secondes, je prends du recul et je réalise que tout va bien. » Est-ce que c'est un peu ça, finalement, l'attachement sécure? C'est une maturité émotionnelle qu'il faut aller chercher?
Alors, je ne sais pas si ça s'appelle de la maturité émotionnelle, mais en tout cas, dans le couple, évidemment, ça permet de se dire « Non, mais là, ok, c'est comme tu dis, là, c'est moi qui m'emballe, en fait. C'est moi toute seule. Il ne s'est rien passé. Je me suis emballée pour rien. » Ou ça permet aussi de pouvoir accueillir les émotions de son partenaire,
ouais,
de pouvoir décoder une situation et se dire « Bon, attends, là, il y a quelque chose, en fait, qui l'active. Bon, on va pouvoir se poser. » On va pouvoir accueillir, on va pas monter en l'air direct, se mettre en colère. Donc, ça permet de prendre du recul aussi.
Ok.
Plus on se comprend, soit plus on a des prises de conscience de comment on fonctionne intérieurement, d'où viennent nos émotions, plus on fait des liens, plus on va pouvoir accueillir l'autre dans ses émotions et dans ce qu'il vit.
Ouais, c'est
ça aussi. Le travail sur soi, ça permet aussi de voir l'autre et d'accueillir l'autre dans sa différence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un couple, quand il y en a un qui fait un travail sur soi, ben ça va bouger la relation. L'autre va bouger parce que comme la personne qui fait un travail va bouger, va comprendre des choses, va avoir de la prise de conscience et elle va voir que ça bouge, elle va vouloir aussi informer son partenaire ou les autres de ce qui se passe. Donc ça va élever le niveau de conscience.
Waouh, c'est beau ce que tu dis.
C'est systémique, c'est vraiment systémique. C'est-à-dire quand on aide une personne, on aide aussi son entourage.
Ah, c'est hyper beau.
C'est ça qui est bien.
Bah, c'est bien, en fait, Anouk de Anouchka Amour, elle expliquait justement, elle le dit souvent, le 1 change le 2. C'est-à-dire qu'en fait, parce que beaucoup de femmes, et ça c'est une réalité, il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur elles-mêmes, qui ont ce déclic de se dire quelque chose ne va pas, il faut que je me fasse accompagner, etc. Mais il y a aussi du coup beaucoup de femmes qui sont frustrées en disant moi je suis là, je me parfais, je travaille sur moi-même, et mon mari ou mon futur mari, il n'a pas travaillé sur lui, ça me frustre. Mais en fait, ce que tu annonces là, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est de se dire il n'est pas possible d'évoluer sans que ça ne déplace pas. C'est comme une comme tu dis, c'est systémique en fait. Tu as forcément amené des personnes dans ton mouvement en fait, parce qu'en fait tout le monde est attaché.
Ça va changer la dynamique du groupe.
Exactement. Oui, parce qu'en fait tout le monde est lié. Encore une fois, on parle de lien, d'attachement. Tout le monde est lié. Donc si toi t'avances, bah, la personne elle va de fait avancer avec toi parce qu'elle est liée à toi en fait.
L'autre avance, après il y a ses limites aussi puisque l'autre va pas aller dans l'introspection aussi de l'autre et,
parfaitement.
Et la partenaire n'est pas la psy ou la thérapeute de son mari. Donc ou vice-versa. Hein. Mais l'idée c'est que ça peut changer. Moi je connais un couple qui ne fonctionnait, enfin, qui était au bord du divorce, et la personne a fait un travail sur elle. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, en fait, tout va bien. Ils ont un enfant et la communication se fait beaucoup mieux. Les moments de crise montent beaucoup moins haut et même si ça monte, ça redescend aussi vite. Donc, ça change beaucoup de choses.
Et ça, tu peux confirmer que ce sont des personnes qui ont, entre autres, fait ce travail-là d'aller regarder, d'aller vérifier leur lien d'attachement.
Exactement.
C'est ça ?
Oui. Ok. Ça, la personne a fait un travail en thérapie gestalt.
Ok. Et alors, justement, tu l'as très bien dit et tu l'as bien précisé, le conjoint n'est pas forcément le thérapeute de l'autre ou le psychiatre de l'autre, mais comment on fait quand même pour accompagner ou pour aider son partenaire, son conjoint, enfin son époux, son épouse, lorsqu'on sent justement qu'il a un lien d'attachement qui n'est pas sécure en fait. Est-ce qu'on peut l'aider quand même malgré tout? Parce que même si on n'est pas le psy de l'un de l'autre, le fait de se marier implique quand même qu'on s'entraide en fait et qu'on chemine ensemble.
Bien sûr, je le disais, si la personne elle-même fait un travail sur elle, c'est déjà l'aider. Est-ce qu'elle va pouvoir accueillir son mari dans sa problématique aussi? Elle va pouvoir le comprendre. Elle va pouvoir... peut-être lui faire prendre conscience des choses qui ont bougé pour elle, est-ce qu'elle en a compris. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier pas.
Ok, ok.
Et parce que je le vois, hein, qu'une personne, vraiment, ça peut faire bouger, et ça fait bouger la dynamique du couple.
Ouais, c'est un impact en fait, de fait. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est un message d'espoir que t'offres là. J'aimerais qu'on ait un mot quand même pour les parents, parce que évidemment beaucoup de nos auditeurs et auditrices ont des enfants ou aspirent à avoir des enfants. Et ma question, enfin c'est presque une question qui coule de source une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est comment on crée un lien d'attachement sécure avec son enfant ou comment on le répare, parce que comme tu l'as très bien dit, rien n'est figé. Encore une fois, est-ce qu'il y a des outils, des questions qu'on peut se poser sans pour autant aller dans l'accompagnement? Mais est-ce que tu peux offrir des éléments de réflexion, peut-être des outils, pour que les personnes puissent un peu regarder, vérifier, se poser la question du lien d'attachement de son enfant et voir comment on peut l'accompagner vers une autonomisation finalement, vers une maturité émotionnelle?
Alors, déjà, effectivement, si la personne ne peut pas faire un travail sur elle, c'est vraiment en fait des conditions aussi. C'est les conditions des parents qui... un environnement familial où le papa, il est présent, où il s'intéresse aux enfants, il soutient la maman.
Ça, c'est hyper... pardon, hein, vraiment, je me permets de t'interrompre, mais je trouve que c'est très précieux parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des mamans. Et comme tu l'as très bien dit, on en a parlé parce que le lien d'attachement dont on parle, c'est ce lien d'attachement avec la figure maternelle. Mais en fait, force est de constater que les foyers où le papa, il est présent, où le papa, il donne de l'amour, ça donne quand même forcément une teinte aussi sur son lien d'attachement, en fait, parce que, enfin, moi, je le vois à titre personnel, oui.
Le mari, là, qui est là à soutenir sa femme, déjà, qui vient d'accoucher, à l'aider, ça va la rendre plus disponible pour son bébé. Déjà, elle va être psychologiquement apaisée, parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur son mari. Elle sait qu'elle va pas avoir tout le ménage à faire alors qu'elle est fatiguée, qu'elle vient d'accoucher, ou que son enfant a déjà 6 mois, 9 mois, 1 an, peu importe. Il y a un soutien, pas que du mari, il y a un soutien aussi des membres de la famille.
Et que ce non-soutien, en fait, finalement, peut altérer le lien d'attachement avec l'enfant. C'est ça, en fait, qui est hyper intéressant à comprendre.
Cette non-disponibilité, la psychique, ou peut-être que la maman elle va devoir reprendre son boulot plus tôt. Donc déjà, il commence à y avoir des petites choses là dans le lien d'attachement, la séparation peut-être trop tôt, une séparation trop tôt parce que la maman elle doit reprendre son travail. Peut-être qu'elle est pas disponible dans sa tête.
C'est très intéressant ce que tu disais par rapport au rôle du coup du père, parce que ça permet quand même finalement de le réintroduire dans la conversation, et ça permet quand même de se rappeler que la place de la maman dans l'évolution de nos êtres, des adultes que nous sommes, elle est fondamentale, mais que malgré tout, la présence du papa colore aussi le lien d'attachement, en fait. Parce que si le papa a une présence, là, comme tu dis, la disponibilité que l'on a en tant que maman, elle change complètement. Et donc, du coup, ça crée une autre qualité de lien d'attachement entre la mère et l'enfant. Et moi, en tout cas, en tant qu'adulte, je vois à quel point le fait d'avoir grandi avec une maman qui était présente et un père qui était présent, a profondément joué dans la personnalité que j'ai, dans mes liens d'attachement, qui ne sont pas parfaits, n'est-ce pas, mais qui est quand même, je pense, plus stable que tu vois le dernier lien d'attachement dont tu as parlé, où là effectivement on sent que bah oui, là il y a eu des manquements dans le lien d'attachement, et pas uniquement dans le lien d'attachement avec la maman, quoi.
Oui, exactement. Après le père, là, dans les premiers instants de vie, c'est le prolongement de la maman. Mais il va avoir un rôle très important très tôt, à un moment donné. Il va avoir un rôle sur l'estime de soi et la confiance en soi.
Ah, donc là, on va refaire un deuxième podcast, Sarah, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? C'est que là, on a vraiment parlé essentiellement des liens d'attachement, mais que, attention, finalement, il n'y a pas que les liens d'attachement qui nous composent. Exactement. Il y a aussi cette estime de soi, etc. Et par contre, dans l'estime de soi, le papa, il a un rôle à jouer.
Exactement. Wow. Donc là, on a vraiment beaucoup parlé, oui, effectivement, comme tu dis, de la maman, mais il n'y a pas que la maman. Il y a vraiment ce rôle-là du papa qui est important. Et notamment dans les premiers instants de vie, ce soutien-là qui est important et à donner à la maman qui est en train de... Oui. Qui est en train d'accueillir son enfant.
Oui, bien sûr. Ouais, c'est passionnant.
Il va y avoir aussi d'autres choses. C'est vraiment un énorme facteur. C'est expliquer les choses à l'enfant. L'expliquer, le rassurer, lui parler. Parce que même s'il ne comprend pas les mots, il comprend la vibration des mots. Et il y a les neurotransmetteurs là dans le cerveau. Et du coup, c'est important pour le cerveau, là, de dire à un enfant, ben là, maman, elle va te laisser avec papa, ou là, maman, elle va reprendre le travail, mais elle revient ce soir. C'est important. Même si on pense qu'il ne comprend pas, c'est faux. L'enfant comprend l'intonation, la vibration de...
J'allais presque dire l'intention. Il comprend l'intention. D'accord. Mm. C'est un mot qui nous est cher en tant que croyant, justement, cette intention. Et je trouve ça beau de dire que quelque part, on nous demande souvent de renouveler notre attention, mais que l'intention joue aussi dans la qualité du lien d'attachement que l'on peut créer entre une maman et son enfant. J'ai une dernière question quand même, parce que j'en ai pas abordé cette question, mais en fait, comment tu fais, parce qu'on s'en était parlé aussi, comment tu fais pour... travailler en gros sur ton lien d'attachement alors que t'es pas encore mariée, parce que c'est une question que je t'avais posée en te disant que bah en fait parfois avant de te marier, toi t'as l'impression que t'as l'attachement hyper sécure, tu vois, parce que t'es pas confrontée à la vraie vie, et puis un jour tu te maries.
Toutes les personnes que j'accompagne me disent que en fait tout va bien,
mais évidemment,
et qu'elles ont eu une enfance magnifique,
mais évidemment.
Quand on creuse, et qu'on a accès là à cet émotionnel de ce qu'ils ont vécu enfant, parce que là c'est la rationalisation. Là tu rationalises quand tu me dis moi je pense que tout va bien, que ceci parce que je fonctionne très bien, parce que tout va bien là, j'arrive. Mais enfant, on n'a pas cette rationalisation de ce qu'on est en train de vivre là avec nos parents. On vit les émotions fois 1000, 10 000 même. On peut pas trouver d'explication. Ce qui se passe, c'est qu'on va trouver une manière de fonctionner dans cette situation qui va être créatrice. pour pouvoir se protéger, se mettre en sécurité, vivre ce qui se passe là avec nos parents. Et l'idée de faire un travail sur soi, c'est que si justement on ne fait pas de travail sur soi, on emmène cette façon de fonctionner adulte. Elle reste et on voit bien que ça ne colle pas là dans notre vie d'adulte. On voit bien qu'il se passe des choses qui sont compliquées. Parce qu'aujourd'hui, ce qui était créateur hier est conservateur aujourd'hui. Et c'est l'idée de nettoyer tout ça qui va permettre de faire du lien avec le passé, justement. Et pourquoi je ressens ça aujourd'hui? Effectivement, dans des situations, j'ai ressenti beaucoup ça.
Ok. Ok. Bah, c'est hyper intéressant. Eh bien, je te remercie vraiment beaucoup, Sarah, parce que tu permets aussi aux personnes qui nous écoutent de se rendre compte que c'est pas dramatique de pas avoir des liens d'attachement sécures et que ça permet aussi d'accepter que ces liens-là, en fait, tu peux difficilement les comprendre avant de te marier, mais qu'une fois que si t'es mariée, c'est pas perdu.
Ah, tu peux les comprendre avant le mariage si tu décides d'aller faire un travail sur toi.
Ça marche.
Si, on n'est pas obligé d'être marié pour connaître son lien d'attachement. On peut les connaître avant le mariage.
Ah, donc parce que comme tu me disais qu'en fait souvent c'est le fait de faire entrer une nouvelle relation dans sa vie, que ce soit un mari ou ce soit des enfants, bah tu vois, typiquement quand t'as pas d'enfant, bah tu sais pas en fait quel type de maman tu seras. Donc en fait, avant de te marier, tu sais pas quel type d'époux ou d'épouse tu seras en fait.
Oui, mais avant le mariage, avant de se marier, on a d'autres relations dans la vie. On a des amitiés, on a nos parents. Non, mais on a nos parents, on a nos bien frères sûr. Et sœurs, on a nos amis, il y a le monde du travail. Il y a plein de choses qui se passent dans notre environnement relationnel. Donc, les relations,
oui.
On a des relations. Quand je dis que ça s'active plus dans le mariage, c'est parce que là, là, on s'attache, il y a quelqu'un qui est là tout le temps avec nous.
Ouais.
Donc, c'est là. Et quand on est quand on a des enfants aussi, il va se passer quelque chose dans le lien.
Ok. D'accord, ok. Donc, en fait, pour les personnes qui ne sont pas mariées, ne pas hésiter quand même à regarder justement dans les autres relations qui composent notre vie pour essayer justement déjà de voir un peu... parce que ça donne en fait des informations sur le type d'attachement qu'on peut avoir, tout en, je pense, en acceptant que quand tu te maries, ou j'imagine quand tu as des enfants, il y a des choses qui se révèlent aussi. Parce que, a priori, je pense que tu n'as pas le même rapport à la jalousie avec ton patron et avec ton époux, a priori. Donc, il y a des choses quand même que tu ne peux pas déceler avant. Mais il faut être quand même suffisamment ouvert et curieux pour comprendre qu'il y a quand même des choses qui se révèlent avant et on peut tout à fait travailler sur soi avant de se marier, avant d'avoir des enfants.
Bien sûr, et puis c'est pas obligé que ce soit la même situation, les mêmes acteurs entre guillemets. On peut vivre des choses émotionnelles dans des situations complètement différentes et on vit toujours les mêmes.
Ok.
Et c'est là qu'on doit se dire il se passe quelque chose là dans cette situation.
Bah, c'était passionnant, Sarah. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton partage, pour tes enseignements. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter, une question que je t'ai pas posée et tu te dis que ce serait quand même important que les auditeurs et auditrices aient ces informations-là avant de passer à autre chose?
Il y a plusieurs choses à dire parce que c'est passionnant. Mais ce que j'ai envie de dire, en tout cas aux personnes qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas figé. C'est qu'on peut se sortir de situations qui sont problématiques, où on a l'impression que ça ne va jamais se régler, où on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre. Mais il y a une porte de sortie. Et bien évidemment, toujours avec l'aide d'Allah. Placer sa confiance dans Allah aussi, dans ce qu'on fait.
Quel beau mot de la fin. Je ne veux pas rajouter autre chose. Alors, on est obligé de s'arrêter là. Non, vraiment, machallah, et je te remercie vraiment beaucoup de le rappeler, parce que franchement, finalement, ça permet de boucler la boucle, et c'est pas du tout quelque chose qu'on avait prévu. Mais alhamdoulilah, on espère que c'est un bon signe, et que c'est la preuve que on a vraiment toujours à cœur de remettre notre créateur au centre de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, et de se dire que ces sciences-là sont vraiment un moyen à chaque fois de se rapprocher de lui, parce que n'oublions pas, hein, un mariage d'une bonne qualité, eh ben, c'est aussi une meilleure opportunité de se rapprocher de lui. Et donc, Inch'Allah, t'atteindre le
Exactement.
paradis, tout est lié. Et moi, c'est ça que j'aime particulièrement dans le mariage en islam, c'est cette dimension triangulaire, se dire qu'on fait des choses pour quelque chose qui est plus grand que nous, en fait. C'est pas juste toi et
Exactement.
moi. Quand on fait un café à son époux, c'est pas juste on fait un café à son époux, si on se dit je cherche aussi la satisfaction de mon créateur, et je crée de l'harmonie dans mon couple pour que tous les deux on se rapproche du Seigneur, en fait. Et ça, mon Dieu, moi je trouve que c'est magnifique.
Exactement. Exactement. Je suis tout à
Merci
fait d'accord
beaucoup,
avec toi,
Sarah.
Madina.
Alhamdoulilah.
Merci. Merci à
Merci pour
toi.
ton temps, merci pour tes enseignements, et puis pour les personnes qui souhaitent te contacter, pour les personnes qui souhaitent te trouver, est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux, en ligne? Dis-nous tout.
Pouvez me contacter via mon site internet, sarakelafi.fr, donc Khe2Lafi, ou vous pouvez me contacter directement au 07 49 85 89 88.
Super,
Voilà.
alhamdoulilah. Sarah, encore une fois, barakallahu fiki pour ton temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense grandement. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis jusqu'ici. C'était un plaisir de se retrouver autour d'une problématique aussi à la fois importante et à la fois subtile, en fait. J'espère que on aura tous apprécié justement de rentrer en profondeur sur un sujet qui n'est pas toujours simple, mais qui, inch'Allah, nous permettra de nous simplifier la vie dans notre quotidien.
Inch'Allah. Wafiki Baraka. Salam
À
alaikum.
bientôt. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuhu. Bye bye. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doigt. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.